sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Julien Gester et Thierry Chaise pour parler ensemble de Liberté d'Albert Serra, River of Grass de Kayleigh Reichardt, Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Elea Gobet-Mévelec. Il y aura un coup de cœur de Thierry Chaise pour Viendra le feu d'Oliver Lax. Nous ouvrons cette dispute avec le nouveau film d'Albert Serra, Liberté. Vous avez peut-être écouté le cinéaste catalan dans l'émission de Marie Richeux, c'était lundi soir, sur notre antenne. Sinon, vous pourrez le découvrir en podcast après cette émission si vous voulez en savoir plus sur Liberté. Prix spécial du jury dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2019. Un film qui succède donc à la mort de Louis XIV dans sa filmographie. On a quitté la chambre du Roi Soleil pour suivre quelques libertins qui se retrouvent le temps d'une nuit. Dans une forêt.
Nous avons dû fuir la cour, et depuis nous sommes bien seuls. Nos amis se font rares, et les lieux où nous sommes en sécurité le sont aussi. Je crois qu'aujourd'hui, ce ne sont plus certains débauchés qui pourront faire la révolution. Mais ce sont bien ces femmes-là, obstinées, dures, et qui connaissent le prix à payer pour que le monde puisse changer.
Elles savent qu'on va venir les prendre. Elles le savent d'un savoir obscur.
Elles attendent parce qu'elles ont envie, parce qu'elles sont prêtes.
Il ne faut pas les décevoir.
Avant de débattre autour de ce film d'Albert Serra, Liberté, un résumé de votre sentiment à son sujet. Je commence avec vous, Corinne Rondeau.
Je dirais d'une beauté sidérante et d'une intelligence remarquable.
Thierry Chaise.
Une balade en forêt fascinante.
Julien Gester. Ah
bah, à l'intersection à peu près de tout cela.
Ouais. Corinne Rondeau, on va développer maintenant. Bah oui, oui. Beauté sidérante et intelligence, c'était
oui,
quoi?
Oui, oui, oui. Bah, on peut dire que le film commence en 1774, c'est-à-dire que les libertins sont éjectés de la cour du roi. Et donc c'est un film la nuit tombe au début du film. Et on apprend en voix off d'abord, et puis après ça va être une voix in. On parle d'un supplice, et c'est le dernier supplice de l'Ancien Régime qu'on connaît, même quand on a lu « Surveiller et punir » de Foucault. C'est Damiens, celui qui a été écartelé après avoir voulu tuer le roi. Ces libertins se retrouvent dans une forêt, ça commence donc avec la nuit qui tombe, et ça va être une nuit. Ce film est une nuit de 2h12 où les libertins se retrouvent dans la profondeur de la forêt à chercher. Et ce qui est très beau dans le film, et cette beauté dont je parlais sidérante, c'est à quel point ce film, c'est un travail vraiment cinématographique, à savoir comment ça fouille l'image. Les cadrages sont somptueux, la manière dont les choses apparaissent même dans ces libertinages, c'est toutes ces rencontres de corps qui se produisent aussi. Mais c'est pas un film sur les corps, c'est pas un film sur le sadomasochisme, c'est même pas un film sadien, parce que je dirais que le Marquis de Sade n'a jamais écrit sur la forêt. Aucun libertin n'était dans la forêt, donc il faut mettre les choses sans doute à leur place. Et je trouve que Serra, dont je me rappelle avoir fait un reproche sur ses derniers films, parce que c'est un littéraire, il y avait trop de littérature, c'était trop cité, et là il a retrouvé, je dirais, l'honneur de la cavalerie du Cervantes, il a oublié la littérature pour en faire quelque chose. Et ce film, donc, c'est du point de vue de l'image, c'est du clair-obscur près d'un ténébrisme à la Bassano, mais ça ne fait jamais peinture. C'est ça qui est absolument remarquable. Et c'est remarquable d'intelligence, parce qu'en fait, je crois que la puissance du film, c'est sa contemporanéité. Ce n'est pas un film d'histoire. Ce n'est pas simplement un film, je dirais, pour faire apparaître ce qu'est le libertinage dans sa plus sa tenue la plus minimale ou la plus perruquée, on va dire. C'est un film qui retrouve avec des acteurs une sorte d'animalité, de nature. Et je crois que c'est quand même quelqu'un me faisait remarquer la dimension naturelle du film. Bon, parce que c'est la forêt, bien sûr. La dimension rousseauiste, littéralement, du film, parce qu'on est avant la Révolution française. Après, les libertins vivent grâce aux bourgeois, le capitalisme va se mettre bien en place. Et en fait, ce film est sans doute la lecture que moi j'en fais. Et c'est pour ça que je trouve que le film est remarquablement intelligent. C'est une analogie parfaite avec l'hédonisme de la consommation actuelle. Et cet hédonisme des corps qu'on a dans le film, il est à l'endroit même où nous sommes. D'ailleurs, le film vient nous chercher à plusieurs reprises, jusqu'à nous sécher à la fin avec un plan absolument somptueux. Voilà. Et je crois, depuis 10 ans, j'ai pas vu un film aussi prenant. Enfin, bien sûr, il y en a quelques-uns carrément qui passent là. Bon. Mais je pense que c'est le film à voir. C'est celui qui est le plus proche de ce que nous vivons aujourd'hui.
Thierry Chaise, sur Liberté d'Albert Serra.
Je suis entièrement d'accord, c'est vraiment impressionnant. J'envie ceux qui n'ont pas encore fait le voyage, parce que vous allez vous partir dans ce qu'est pour moi totalement le cinéma, c'est-à-dire qu'un voyage totalement inattendu, et un voyage d'autant plus inattendu qu'à la fin, on ne sait plus très bien finalement ce qu'on a vu, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a pu fantasmer, ce qu'on a entrevu. Il y a ce travail-là vraiment fascinant. Évidemment, un travail de forme, alors qu'on sait que dans la forme, il est parfait, que la mort de Louis XIV était en intérieur. Là, d'un seul coup, il arrive à faire en extérieur des tableaux. Donc, on pourrait se dire, magnifique, vraiment déjà un plaisir pour les yeux. Ça ne pourrait être qu'un plaisir pour les yeux, comme ça ne pourrait être qu'un plaisir cérébral. Et là où il est fort, c'est que dès le départ, par cette voie, en effet, off qui va devenir in, on est entraîné là. Et on est entraîné où ? Dans un mélange des genres qui est quasiment parfait pour moi. Tous les contrastes sont là. C'est minimaliste, mais tout est soigné dans les touches chromatiques. Le goût et le dégoût ne vont faire qu'un. Les corps sont jeunes et vieux mêlés. Il y a quelque chose, il y a une résistance à la hiérarchie, il y a une abolition des distinctions qui amène très vite le film sur le terrain politique. Et que tout cela arrive en 2h10... à avancer avec un rythme totalement fascinant, sans changer de pied au milieu, sans forcer le trait. Il y a tous les obstacles possibles. Justement, ça pourrait être un film sadien, on pourrait en faire un film. Rien de tout cela n'est même effleuré. Et d'arriver à la fin de ce voyage-là, conquis une fois encore, en se demandant bien ce qu'on a pu voir, ça n'arrive pas souvent au cinéma.
Julien Gester, pour terminer ce premier tour de table.
Mais je vais me contenter de prolonger ce que disent mes camarades, parce que c'est vrai que je trouve le film stupéfiant, et je voudrais prolonger ce que disait Thierry, c'est-à-dire qu'on peut envier les gens qui vont découvrir le film, et aussi surtout peut-être dire que c'est un film qui parle l'espèce de miracle alchimique qui se produit sur l'écran, plastiquement, de la manière dont il parvient à abolir absolument toute perception de temps, de réalité, plus ou moins fantasmé de ce qu'on projette, de ce qu'on voit à l'image, est vraiment un film qui est fait pour la salle. Je veux dire, il faut dire, je pense, c'est rare de se dire à ce point que c'est un film qui va perdre quand même beaucoup, sans doute, à être vu sur un écran domestique ou voilà. Donc quand c'est possible, je ne sais pas quelle est l'ampleur exacte de la distribution, mais que je devine légèrement inférieure à celle d'Avengers Endgame, par exemple.
À peine.
Je pense que quand c'est possible, qu'on a une salle de proximité qui passe Liberté d'Albert Serra, il faut en profiter parce que c'est le cirque est en ville et il ne repassera pas forcément dans la décennie qui vient. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a ce tremblé justement de la perception qui s'opère face au film et on pourrait en essayant de le décrire, je pense. Il est difficile de l'écrire, de rendre compte tout à fait de ce qui s'y joue, d'un peu justement miraculeux dans ce tremblé-là, dans ce vacillement un peu la perception. On ne sait pas toujours très bien ce qu'on voit. C'est un film qui est dans la construction de ces images. Change régulièrement, peut-être à l'intérieur même d'un plan, l'endroit qui devrait être celui auquel s'arrime le regard, par des jeux de lumière. Cette lumière nocturne est quand même vraiment stupéfiante, si j'ai bien compris. Je crois qu'Albert Serra a travaillé avec et son chef opérateur avec une lumière suspendue à un ballon, je crois. Donc qui évoluait au-dessus en fait des scènes, afin aussi que tournant à trois caméras, de pouvoir ouvrir un espace de tournage aussi vaste que possible et livré à différentes, je sais pas s'il faut parler d'improvisation, mais de toute façon ces acteurs qui pour la plupart n'en sont pas, même si on croise quelques silhouettes connues, notamment celle d'Helmut Berger, n'avaient pas eu de scénario entre les mains. Enfin, ils racontent aisément, et il l'a fait sur votre antenne, je crois, dans les pages de mon journal et ailleurs, comment il aime bien convoquer
tout le monde,
tous les jours, et puis décider un peu en fonction, un peu sur le mode d'une écriture de plateau. Il faut dire aussi que le film vient d'un projet initialement théâtral monté à la Volksbühne à Berlin. Mais cette lumière stupéfiante du film, dont je pense qu'elle est retravaillée aussi en post-production, on a l'impression que les toiles du film, même si encore, je rejoins Corinne Rondeau dans ce qu'elle disait, c'est-à-dire qu'il y a une forme de faux pictorialisme en fait du film, parce qu'à la fois les tableaux plans paraissent peints mais numériquement et sans jamais dans une forme de mimétisme vis-à-vis de la peinture. On a l'impression qu'il y a des ondoiements d'obscurité, de lumière qui redessinent véritablement ce qui se joue dans les plans. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est un film qui est profondément, si on essaie de raconter un peu factuellement ce qui s'y joue, contemplatif, mais pas au sens où ce serait un film qui se livrerait ou qui proposerait au spectateur une contemplation à base de longs plans, de scènes étirées, etc., mais où on ne cesse de contempler de l'intérieur. Au fond, il y a évidemment des scènes où les corps se rencontrent, entrent en jeu via des jeux qui vont être épousés, des configurations peut-être de plus en plus hors normes, mais le cœur du film, c'est l'écoute, c'est le regard, c'est des personnages qu'on regarde regarder, qu'on regarde presque renifler. Et puis la phrase clé du film, que je pense a marqué beaucoup de ses spectateurs, c'est un échange qui a lieu, je pense, aux deux tiers du film, où un personnage est interrogé sur son défaut de démonstration de son désir, etc. Et dit évidemment, mais vous savez, tout cela n'est qu'intérieur, au fond, les choses les plus profondes, je ne sais plus quelle est la formulation exacte, mais tout cela n'est qu'intérieur. Et Serra arrive véritablement à montrer ça pendant deux heures, et sans jamais qu'on ait le sentiment que le film est à l'arrêt, qu'il s'attarde, complaisamment, il s'enfonce dans un sillon qui serait dans lequel il s'embourberait.
Bah, c'est vrai que c'est un film qui est quand même essentiellement, c'est comme ça que je l'ai vu, hein, chacun le voit comme il peut, sur les regards, enfin les scopophiles, ils sont à l'écran et dans la salle, enfin c'est vraiment quelque chose sur la pulsion et scopique et sur le plaisir de regarder, et regarder mais avec l'oreille aussi, parce qu'effectivement il y a énormément de plans, on pourrait s'amuser à les compter, de personnages tendus à la fois visuellement et auditivement vers quelque chose qui se passe hors champ. Est-ce que c'est ce qu'on vient de voir? Est-ce ce qu'on verra après? Est-ce que c'est une chose qu'on ne verra jamais? Il y a une sorte de perte de repères spatial et temporel, même si le film joue la temporalité d'une nuit. Je vous mettrai au défi de faire un plan pour savoir où est posée telle chaise, comment circulent les désirs, les corps, les pulsions. Et je crois que ça fait partie aussi pleinement du projet d'Albert Serra que de nous perdre et de se perdre dans ces regards. Mais en tout cas, il y a une sorte de quête et d'enquête quand même dans ce film. C'est pour ça qu'il y a une chose étonnante, parce qu'il y a ces longs plans, on peut pas dire que ça parle beaucoup non plus, mais qui sont... Vous trouvez que ça parle beaucoup, Corinne Rondeau?
Non, mais ça parle.
Ça parle énormément.
Non, bien sûr, ce n'est pas... Oui.
Voilà, ça commence par la parole et scandé.
C'est pas très bavard. Oui. Ah bah, après le long récit inaugural, il y a quand même un très long temps, justement, sans plus aucune parole, avant qu'elle n'advienne à nouveau. Mais il y a ce jeu-là. Qu'est-ce qui va advenir quand? De quelle façon? À quel endroit? Et même s'il y a quand même une progression dans les pratiques, parce que quand même ça se joue, le temps d'une nuit, plus le temps passe et plus les expériences seront poussées, ce qui est assez logique. Comment vous avez vécu, vous, cette question du temps, de l'espace?
Exactement ça. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est quand, comme Julien l'a rappelé, et vous aussi, les méthodes de travail, qui est tout le monde vient, le texte n'est pas su, c'est d'arriver. Moi, je suis fasciné par cette maîtrise absolument totale d'un moment où, pour reprendre le titre du film, on est dans une liberté très grande. Et je pense que ce mélange-là fait, moi, vraiment... Il y a des scènes que je venais de voir et je me demandais aussi, mais est-ce que ça fait allusion à autre chose? Je revenais en arrière. Enfin, il y a un travail du spectateur, mais un travail très plaisant qui est justement de se dire, je m'abandonne totalement et je suis comme dans une Sherlock Holmes qui enquêterait à l'intérieur du film, tout en ayant bien conscience que il y a un commandant qui est là, qui justement mène totalement sa barre, qui fait cette montée en puissance, mais une montée en puissance qu'on ne subit pas, qu'on accompagne. Mmh. Et je trouve que c'est quelque chose de tenir ça sur cette distance-là, sans qu'à un moment on soit pris d'ennui ou de d'urgence, je reste vraiment fasciné.
Corinne Rondeau.
Oui, alors, bon, il faudrait peut-être mettre des mots sur les choses quand même, parce qu'on tourne autour du pot, je trouve, parce qu'on parle de pratiques hors normes, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir aussi de la séance. Je suis pas sûre que les gens, tous les spectateurs, soient capables d'aller vers ce film, même si Serra nous invite peu à peu à rentrer dans cette profondeur de la forêt, de l'obscurité, le nombre de personnages qui sont derrière les arbres, qui épient. Donc c'est vraiment des signes de nous faire entrer dans le... Mais après, effectivement, c'est un cinéma. Ce film s'oppose à toute la cinématographie aujourd'hui sur la question de la sexualité. On a toujours des hommes ou des femmes qui ont des organes gigantesques avec des peaux qui sont passées au soleil, où ça transpire, ou alors on est en extase, où on a très mal parce que ça se passe ou très bien ou très mal. C'est un film qui ne bande pas, c'est un film antiphallique, c'est un film où justement toute la sexualité sauf la pénétration hétéronormée est présente. Vous n'avez rien, et une des raisons, c'est je ne peux pas le faire, et bien je vous montre mon cul, monsieur. Donc le film, c'est aussi ça. Il faut le, et pendant 2h12, il faut dire que c'est des corps, et effectivement on ne sait pas parfois ce que c'est, d'où ça vient, mais ça n'arrête pas de circuler comme de l'organique. Là on est au fait de la recherche de ce qui peut se produire quand on n'est pas dans voilà le cinéma tel qu'on nous le dit, avec sa sexualité bateau, ridicule, abjecte de la cinématographie, ou que tout le monde va voir en disant oh là là, oh là là. Non, ce film là c'est effectivement, il y a quelque chose, même quand les corps on a l'impression qu'ils sont dans un acte sexuel normal, ils se vautrent. Il n'y a pas d'érection. Il y a, je dirais que même lorsqu'il y a un sexe d'homme, il y en a bien sûr, mais il le filme avec une qualité de ce qu'est un corps. Un corps, c'est pas beau. Ce n'est pas beau. Non, mais il faut avoir le désir de quelqu'un pour trouver que les organes génitaux, c'est beau. Il faut arrêter avec ces délires là, quoi. Sinon, on va. Moi,
c'est
j'adore.
En tout cas, votre avis, Corinne Rondeau.
Oui, non, mais
c'est la dispute. Hein.
J'adore le département des antiques au Louvre. Il y a aucun problème là-dessus. Moi, l'idéal, ça ne me dérange pas. Je peux même le projeter sur des gens en chair et en os. Mais ce film, il a cette radicalité de la nature. Et cette radicalité-là, elle nous conduit justement à des dépassements qui ne sont pas du scandale en tant que tel. Donc la question du monstrueux, elle est aussi à l'intérieur de ce que nous vivons quand nous ne voulons pas voir ni dire ce que sont les choses, ce qu'est réellement ce film. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sortiront aussi de la salle. Ils auront tort, hein. Mais et pourtant, pour moi, c'est vraiment le film le plus onctueux que j'ai vu, parce que c'est filmé avec une sorte de qualité extraordinaire.
On pourrait le mettre sur l'affiche, c'est le film le plus onctueux.
Absolument.
Des dernières années. Mais alors pour moi, oui, non, j'entends bien. Un dernier mot, rapidement, peut-être, Julien Gester.
Non, mais c'est vrai que l'onctuosité n'était pas forcément la qualité du film qui m'avait sauté aux yeux.
Ah ben, y a une scène, je ne peux pas le dire en direct, mais pour moi, c'est vraiment
Scène très onctueuse.
Oui, hein. Voilà.
Mais d'ailleurs, tout le monde ne pourra pas voir le film. Techniquement, d'ailleurs, il est interdit au moins de 16 ans avec avertissement. C'est ce qui peut paraître le moins et en même temps le plus. Enfin, c'est un film qui est un peu au-delà de ça, de toute façon, puisque ça n'a pas grand-chose à voir avec d'une part, ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Ça n'a évidemment pas grand-chose à voir non plus avec ce que produit l'industrie pornographique. Et sur cette question de mettre des mots sur les choses, c'est d'ailleurs ce que commence par faire le film.
Ouais.
Parce qu'il y a donc ce récit initial, et puis ensuite, dans ce premier temps parlé du film, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un programme, alors que la nuit tombe. On a l'impression que rien ne peut se passer avant la tombée de la nuit, qui est déroulé avec des instructions en disant tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et on a une sorte de programme à la fois sexuel et eschatologique qui est mis en place, qui ne sera pas réalisé tel quel. Voilà, mais le film presque prépare le terrain par la parole à quelque chose qui va ensuite être beaucoup plus mental pendant très longtemps et puis devenir ultimement peut-être plus graphique. Mais il y a une forme de montée en puissance, mais comme s'il fallait partir du verbe et puis ensuite de... que le stade suivant, au fond, c'est, il était presque nul du point de vue du visible pour ensuite rentrer dans cette progression-là.
Allez voir, regardez si ça passe près de chez vous, parce qu'on ne peut pas dire qu'effectivement il y a une sortie numériquement très importante, numérairement peut-être exactement, non pas numériquement. Liberté d'Albert Serra. Nous allons parler dans cette émission de River of Grass, des Hirondelles de Kaboul et deviendra le feu.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec un film vieux de 25 ans, mais pas jamais sorti sur les écrans français, River of Grass, de Kelly Reichardt. Je ne sais pas comment on le prononce. C'est sans doute le succès de Night Moves et de Certaines Femmes, ces derniers films en date qui ont permis cette sortie. On a souvent l'occasion, et Thierry Chaise est un grand spécialiste du festival Sundance, c'est vrai que le label quand même aujourd'hui ne recouvre plus aujourd'hui que des films le plus souvent faussement indépendants. Donc c'est intéressant de découvrir aujourd'hui le premier long métrage de la cinéaste qui s'est à l'époque fait connaître dans le festival créé par Robert Redford. Il avait eu le grand prix du jury, le film River of Grass.
What's she doing with this guy?
A missing daughter and a missing gun. They're really the same problem.
It's funny how a person could leave everything she knew behind and still wind up in such a familiar place.
River of Grass de Kelly Reichardt. Premier sentiment sur ce film, Julien Gester.
C'est le premier film d'une très grande cinéaste et c'est peut-être pas déjà un grand film, mais c'est un très beau film.
Thierry Chaise.
Une curiosité très judicieusement exhumée.
Et Corinne Rondeau.
Ni oui ni non.
Bon. Alors, je vais jouer à ce jeu-là avec vous jusqu'à la fin de cette émission. Julien Gester, pour développer.
Bah donc ce premier film, il était évidemment inédit, comme vous l'avez dit, parce que les deux premiers longs métrages de Kelly Reichardt l'étaient avant qu'on la découvre en 2006 avec Old Joy. On a un peu tardé finalement à reprendre l'histoire par le début. Je trouve que c'est une initiative un peu merveilleuse de ce distributeur Splendor Film que de l'avoir exhumé. D'une part parce que ça permet de patienter jusqu'au prochain film de Kelly Reichardt qu'on attendait un peu pour... par exemple le Festival de Cannes, et puis je crois qu'il n'était pas prêt, peut-être pour cet automne, et puis il semble qu'il ne sortira qu'au printemps prochain.
Cannes 2020.
Possiblement. Oh non, parce qu'il est prévu, je crois qu'il est programmé aux États-Unis dès mars. Ah. Donc, voilà. Bon. Mais peut-être du côté de Sundance, pour les gens qui fréquentent...
ce festival.
Encore ce festival.
Il est plus qu'il était.
Et justement, d'ailleurs, je pensais pas faire cette transition, ouais. mais si on se rappelle ce qu'était le cinéma américain indépendant. Donc c'est un film extrêmement indépendant que l'on voit avec ce River of Grass qui a été tourné en une quinzaine ou une vingtaine de jours avec très peu de moyens, coproduit, enfin essentiellement produit par son acteur principal qui est une sorte de maverick, de figure un peu obscure du cinéma indépendant américain depuis une vingtaine d'années. Ce premier film-là, tourné sans autorisation, avec des difficultés matérielles innombrables, il arrive à peu près au moment où émerge un nouveau cinéma indépendant américain, dont les têtes de gondole sont peut-être, on pourrait dire, les frères Coen, Quentin Tarantino, Steven Soderbergh. Et puis peut-être de manière à l'époque un tout petit peu moins visible aussi Todd Haynes dont est proche peut-être déjà à l'époque Kelly Reichardt qui a quitté la Floride pour se réimplanter à Portland et qui est le territoire de ce cinéaste là et ce film là on peut comprendre à quel point on a mis du temps peut-être à lui trouver un sens ou une résonance peut-être en voyant à quel point il est radicalement différent de ce qu'était ce cinéma indépendant américain de l'époque, qui arrivait après une décennie qui, politiquement, était une décennie de réganisme, qui, sur les écrans, était une décennie où Hollywood avait repris la main sur, par rapport à ce qu'avait été le nouvel Hollywood, par rapport à la contre-culture des années 70, le retour à une forme de merveilleux, de film sériel qui a d'ailleurs repris le dessus dans le cinéma contemporain. Et pour le coup, le cinéma indépendant de l'époque, lui, dialogue vraiment, a beau se penser comme un contre-Hollywood, un nouvel Hollywood, il est dans un dialogue absolu avec le cinéma majoritaire de la décennie passée, le cinéma classique, à travers un recours au pop, au mythe, et que le maniérisme de ces cinéastes-là, les Soderbergh, les Cohen, les Tarantino, s'exerce quand même sur des figures, un peu des icônes à ce moment-là. Le film de Kelly Reichardt, il dialogue beaucoup plus avec le cinéma de la décennie précédente et sur un mode absolument désenchanté, au sens où ce qui était déjà une forme de sortie, constituait déjà une forme de sortie de route dans les films des années 70, les road movies innombrables. On peut à la limite se dire que la figure peut-être la plus proche, mais néanmoins vis-à-vis de laquelle elle se démarquerait, ce serait un Monty Hellman. Là, il n'y a plus de trajet possible, il n'y a plus de cavale possible, puisqu'il n'y a plus d'intrigue, il n'y a plus d'essence, littéralement, dans le moteur. Et même les armes qui pourraient procurer une forme de dramaturgie, voilà, y a un flingue qui se balade dans le film, ne sert finalement strictement à rien, sinon à tirer sur les cafards.
On n'a pas vraiment dit, hein, encore tiré chaise, de quoi parler ce film, même si il manque d'essence. Il y a quand même une première figure, enfin il y a deux figures principales. La première, c'est celle de Cosy, cette mère indigne que nous montre le film.
C'est formidable, c'est la première chose. Ça, c'est vraiment...
Une mère d'enfant complètement de ses enfants.
De son mari, de ses enfants.
En bas âge.
Elle voulait être danseuse, acrobate, gymnaste, et puis... Elle n'a rien été de tout ça, donc elle décide de partir. Elle va rencontrer un jeune homme sans emploi. Il s'appelle Lee.
Il vit chez sa grand-mère.
Voilà, il vient de récupérer une arme à feu, et de cette arme à feu et de son utilisation maladroite va provoquer une cavale. Elle est elle-même, Kelly Reichardt, fille de policier. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très... Et moi, j'ai vraiment... Alors, on discute avec des films, mais c'est l'anti-Bonnie and Clyde, en quelque sorte. On se rappelle, Bonnie and Clyde, c'était « They're young, they're in love, they kill people ». Ils sont jeunes, ils sont amoureux et ils tuent des gens. Là, ils ont la trentaine, de la cellulite.
C'est 25 ans tout pile après Bonnie and Clyde. Voilà. Je fais des maths en direct.
Bravo. Non, mais c'est le front dégarni. Ils ne s'aiment pas. Voilà, c'est l'histoire d'amour sans amour. Ils savent à peine tuer un cafard. Mais il y a ce personnage féminin que je trouve...
Bonne technique.
Voilà, que je trouve absolument, absolument fascinant. Parce que justement, dans ce genre de film-là, avec des amants criminels, il y en a plein. Très souvent, l'homme prend le dessus et la femme, l'accompagne. Là, donc, c'est ce qu'on a dit, le portrait féminin qui décide, l'électron libre qu'elle est. Voilà, elle part, elle quitte son mari. Non pas pour un amour plus grand. C'est vraiment pas ça. Mais pour une union criminelle qui serait plus profonde et pour vivre enfin quelque chose. Et d'ailleurs, lorsqu'il va lui proposer une vie plus ou moins rangée, elle va pas supporter, se débarrasser de lui. Et puis, c'est elle qui finalement soif de sang et d'aventure. Je trouve qu'il y a un personnage, alors ça serait une sorte de Wanda, de Barbara Loden, du sud-est des États-Unis aussi, des années après, que je trouve fascinante, interprétée par une femme, par une comédienne qui n'a rien fait d'autre, je crois, juste après. C'est un instant. Et en fait, cet instant, cette histoire pose tout ce qui va être les bases de tout le cinéma que moi, comme aussi Julien, j'aime vraiment énormément. Ces personnages féminins forts, cette idée de solitude, ces paysages désolés, cette direction acteur au cordeau, ce sens du réalisme assez rugueux, ce refus absolu de tout sentimentalisme pour rien qui rend le film intéressant.
Corinne Rondeau, ni oui ni non.
Non, mais c'était pour meubler, en fait. Non, alors moi j'ai bien aimé ce film, mais c'est vrai que il y a quelque chose de ce film dans lequel il faut entrer parce que c'est un film sur la rupture. Il est monté par de la rupture et des ellipses. On a l'impression que le film commence par le milieu et en fait c'est quand même un début et tout le film est quand même un film sur l'ennui. Cette femme s'ennuie profondément et le film prend la mesure de l'ennui. Et l'ennui c'est ni le début ni la fin. Il y a rien. On revient à ce que disait d'ailleurs Julien tout à l'heure. C'est cette manière d'être capable de scénariser, puisqu'en fait, c'est l'histoire d'un revolver qui fait le film. C'est le fil du film, c'est pas les individus, c'est un revolver qu'on perd. Et on le perd, d'ailleurs, c'est ce qui arrive au tout début du film. C'est pas vraiment l'histoire de quelqu'un, c'est d'abord un flic qui s'aperçoit, après, en courant derrière un type, qu'il a perdu son revolver, et puis la mère va monter sur ses pieds parce que c'est le bord d'une plage. Et en fait, tout est raté, c'est-à-dire c'est la désillusion. Et River of Grass, c'est un territoire nommé par les Indiens, qui est normalement un territoire inhabitable. Mais dans le film, la voix off de la protagoniste nous raconte qu'en fait, ça deviendra un centre commercial, et ça devient un centre commercial puisqu'en fait il y a un plan où la voiture passe et elle récupère son mari dont elle n'a absolument rien à faire. Et ce qui est assez beau, c'est que dès le début du film, dans ces ruptures, dans ces ellipses, à un moment donné elle est poursuivie par une voiture de flic, elle est arrêtée par le côté, le type sort de la voiture, son revolver, et en fait elle le salue, c'est un copain de son père. Et là d'un coup elle l'écoute, parce que tout le film est aussi une manière d'avoir des flashbacks ou des images qu'on a dans sa tête finalement pendant qu'on vous parle. Genre, parce que toujours ça m'intéresse. Donc on entend ce qui se dit dans la scène qui est filmée et on voit des plans qui s'intercalent où en fait le flic se dit où est-ce que j'ai fait tomber mon revolver. Et là par exemple quand elle est arrêtée sur le bord de l'autoroute, elle est en train de regarder toutes les voies des changeurs et elle se dit je me demande bien où ces routes me menaient. Et en fait c'est tout le film. Tout le film est dans comment ça circule, où ça va, et ma vie est toujours prise dans quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire le cafard qu'on ne tue pas, les relations qui ne vont pas au bout. Et effectivement, dès que de la norme rentre, vous l'avez dit à propos de son camarade, Lille, ce jeune garçon qu'elle rencontre parce qu'il a failli l'écraser quand même, il ne faut pas. Donc ce film est d'une grande drôlerie. Et il est d'une grande intelligence aussi, tout de même, parce que la manière dont ça finit, c'est « s'il te plaît, ne rentre pas là dans la norme, parce que ça va très mal se passer ». Et effectivement, c'est ce road movie qui est le chemin qu'on fait sans atteindre un but. C'est ça le road movie. Donc c'est un road movie parmi les road movies, bien après la grande décennie des road movies avant.
Mais c'est vrai que moi qui ai moins goûté, ou qui goûte moins que Jean Gestern, les derniers films de Kylie Reichardt, je suis très surpris de lui voir autant de fantaisie, autant de drôlerie, quand même des choses extrêmement drôles, et notamment donc ce personnage de, il s'appelle comment, Ryder dans le film, ce flic qui perd sans arrêt son pistolet. Mais il n'y a pas que ça, enfin, il y a beaucoup beaucoup de choses drôles. Qu'est-ce qu'elle a fait de son humour, Kylie Reichardt? C'est dommage qu'elle l'ait perdu, non, Julien Gestern?
Bah non, mais elle l'a pas forcément perdu, c'est son cinéma qui s'est tourné vers autre chose. Il faut d'ailleurs dire que le film, enfin, on peut vraiment, si on veut appliquer strictement et intensivement la politique des auteurs, on peut évidemment trouver tout un tas de choses qui rattachent ce film à l'œuvre à venir, sur des préoccupations plutôt thématiques. Que par son style, il y a quelque chose vraiment tout de suite de la question de la relation et l'ancrage plus ou moins difficile des individus dans un paysage, la prise en compte de ce paysage comme un véritable agent de fiction, y compris quand on voudrait désespérément, comme dans ce film-là, qu'il défile et qu'il reste désespérément immobile. Mais pour le coup, alors il nous reste à découvrir par ailleurs son deuxième long métrage qu'elle tourne 5 ou 6 ans plus tard, qui est le trait d'union entre ce film-là et Old Joy, avec lequel on l'avait découverte. Mais on peut dire que voilà, ses préoccupations, en un sens, et on peut mesurer à l'aune de ce que disait notamment Thierry Chaise, à quel point tout cela, évidemment, probablement un peu baigné d'autobiographie, dans une certaine mesure, par le personnage du père, lié à la police, etc. Mais un ensemble de préoccupations qui sont déjà en place, mais le style, l'écriture, véritablement, de cinéaste, elle va s'inventer ou elle va se réinventer entre-temps, puisque ici, on a l'écriture du film a beaucoup plus à voir avec ce jazz qu'écoute notamment le père, avec des notes intempestives, des séquences beaucoup plus de l'ordre de la vignette, et le cinéma Kelly Reichardt va trouver une fluidité par la suite qu'on peut trouver admirable sans que forcément ça n'annule les qualités d'écriture beaucoup plus hachées de ce premier film.
Alors, Old Joy, c'était le second, hein.
Non, il me semble qu'il y a un film entre les deux.
Il y a Wendy et Lucy qui arrivent après. Il y a encore un autre.
Mais il me semble que vous avez sous les yeux la
liste. Qu'est-ce qui manque?
Le dossier de presse, ce titre m'échappe.
Ah, il en manque un. La filmographie est fausse.
En 1990, non, le dossier de presse est lacunaire.
Ok, mais quand on n'a pas fait 53 films comme si vous allez, on peut tous les mettre, c'est dommage quand même.
Sur un site de référence sur Internet.
J'ai du mal à comprendre. D'accord, bon.
Il me semble qu'en 99, il y a un film qu'elle réalise qui est un long métrage aussi.
Très bien. Nous mènerons l'enquête.
Qui nous est inconnu.
Thierry Chaise, quelques mots encore ?
Oui, c'est pour dire, pour revenir sur Sundance, c'est que, moi qui, je parlais l'année dernière, mais les années d'avant, c'est le film que fantasme aujourd'hui. Ce genre de film que fantasment tous ceux qui voient Sundance, c'est exactement ça qu'ils aimeraient faire.
C'est fini,
et le moule est cassé, on a l'impression.
Il est beaucoup trop arty aussi, on l'a pas dit, mais je sais pas si elle a fait une école d'art, mais tout le début c'est quand même un film de fin d'études quand même quasiment, oui. Avant que ça parte dans d'autres territoires.
Une d'études d'aujourd'hui.
Oui, non mais, c'est, non mais vous avez raison, depuis une quinzaine d'années on va dire. Elle n'était pas en retard, on est d'accord.
Non, elle n'était pas en retard, ce sont peut-être ceux qui font aujourd'hui ça, qui sont très en retard.
Oui, ça c'est sûr.
Parce que ça, on en voit beaucoup.
Ah oui, beaucoup, beaucoup.
Oui, et puis il y a cette volonté, en effet, justement, de ne pas avoir l'obsession de faire quelque chose de parfait qui se termine. C'est un film qui continue, qui recommence à l'intérieur. Or, beaucoup de films qui sont de Sundance aujourd'hui ont un début, un milieu, une fin. Voilà.
Ouais. Un peu triste, parce que sinon, ce n'est pas Sundance.
Un peu larmoyant.
Corinne, ni oui ni non.
Non, mais...
Plutôt oui.
Plutôt oui, quand même.
Oui, non, mais plutôt oui, mais c'est vrai que lorsqu'on est habitué à voir de la vidéo, on se dit... On se dit... Non, mais il y a quelque chose de notre
contemporain. Du champ de l'art contemporain.
Oui, le champ de l'art contemporain. Quand on le voit, le champ de l'art contemporain, ça l'agrège, donc ça le diminue. Donc il faut s'enlever tout ce qu'on a dans la tête, et par contre-effet, effectivement, on se dit... Ce qu'on voit en vidéo souvent, c'est ça dépasse pas, et je suis d'accord avec vous sur le diplôme de fin d'études.
Ouais,
or, c'est pas le cas du film, il est fait avec rien, quoi, vraiment.
Ouais, un diplôme pour Alexandre Fougeron qui nous souffle à l'oreille, c'est Aude, en 1999. Mais le dossier de presse est lacunaire, mais aussi curieux parce qu'il dit que c'est en 2006 qu'elle réalise son deuxième long métrage, Old Joy. Bon, bref.
On va pas accabler ce distributeur qui a eu le mérite
qui est formidable,
de sortir River of Grass.
Splendor, River of Grass de Kelly Reichardt, qui permet un peu à Julien Gester de patienter avant le prochain long métrage de cette cinéaste qu'il adore.
Algunas rebolas están secas.
Trago cancro.
C'est l'heure du coup de cœur ce soir donné par Thierry Chaise à Viendra le feu d'Oliver Lax. Oliver Lax qu'on a entendu là avant-hier chez Marie Richeux sur la trentaine. Là aussi disponible en podcast, en réécoute, en allant sur le site de France Culture. Alors c'est quoi ce Viendra le feu ?
Alors c'est le troisième long métrage de ce cinéaste franco-espagnol de 37 ans et tous ont été primés à Cannes. Le premier c'était Vous êtes tous des capitaines.
L'inverse de Desplechin.
Voilà, c'est ça. Sur un faux tournage avec les enfants de Tanger, primé à la quinzaine réalisateur en 2010. Il y a eu Mimosa, une sorte de périple mystique entre conte oriental et western religieux dans le Haut Atlas marocain, grand prix de la semaine de la critique en 2016. Et donc, Viendra le feu qui a lui remporté le prix du jury de la section Un certain regard en mai dernier. Et il s'agit pour ce natif de Paris d'un retour aux sources. Ses parents, gardiens d'immeuble, étaient d'origine galicienne. Il passait donc chaque été ses vacances chez ses grands-parents, cette communauté autonome du nord-ouest de l'Espagne, où il a posé sa caméra pour la première fois. C'est une région qui est réputée pour ses incendies de forêt, qui était après été ravage d'hectares et hectares de forêt. Et il explique lui qu'il considère que c'est là qu'il est devenu cinéaste. Et lorsqu'il voit ce patrimoine naturel partir en fumée, il souffre et il a la rage. Et la rage, c'est au cœur de son film et du parcours façon chemin de croix de son personnage central qui s'appelle Amador, qui est accusé justement d'avoir provoqué un incendie dans la vallée où il vit seul avec sa mère. Quand le film commence, il sort de prison, il revient dans le village où son retour est vu au mieux avec méfiance, au pire avec haine. À l'exception de sa mère, qui entoure cet enfant maudit d'une tendresse infinie et aussi protectrice que possible face à ce monde qui, hors d'eux, est franchement hostile. Alors, est-ce qu'il est coupable et innocent ? Ça n'est pas la réponse que cherche à donner Lax, ce n'est pas ce qui l'intéresse ici, y compris lorsqu'un nouvel incendie se propage et que tout le village voit en lui le coupable possible. Dans ce conte que moi j'ai trouvé d'une beauté aussi aride qu'envoûtante, se rejoue surtout le combat entre une nature et ses cycles éternels et la volonté des hommes de la domestiquer et de se soustraire à sa volonté. avec une parole rare, des gestes mesurés, une BO où Leonard Cohen côtoie Vivaldi. C'est pas mal. Un grand spectacle intime qui sublime donc la Galice de ses ancêtres, avec qui Lax a définitivement renoué. Et il travaille là à la transformation de la ferme de ses grands-parents en résidence d'artiste. Une boucle se boucle.
On va s'inscrire. En attendant, on va aller voir Viendra le feu d'Oliver Lax que vous nous recommandez ce soir, Thierry Chaise.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Dernier film à notre sommaire ce soir, Les Hirondelles de Kaboul, qui est l'œuvre commune de Zabou Breitman et Eléa Gobé-Mévélec. La comédienne et cinéaste alliée à la dessinatrice et animatrice ont adapté le roman éponyme de Yasmina Kadra, roman qui se situe, donc, comme le film, à l'été 98 à Kaboul, alors occupé par les talibans.
My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear burqa, the burqa is blue.
Soudaïra, baisse la musique en tout temps du dehors. Tu vas nous
attirer. Désolée, Nastaran. Merci.
J'aimerais te renseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Et tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la fraye. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi.
Mais c'est merveilleux. Imagine, éduquer des enfants à être libres.
Oh là là, j'étouffe là-dessous.
Attends, je vais t'aider.
Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop.
Tu vas aller à la mosquée, écouter le prêche du Mollah Bachir. Ça te remettra les idées en place.
Je dois amener mon épouse chez ses parents.
Qu'est-ce que tu as ?
On m'a amené une nouvelle prisonnière.
Et alors ?
Et alors ? Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son châtelet devant moi.
Tu lui as parlé ?
Non. Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée ?
C'est un couple sans problème, gentil.
C'est fichu. Les talibans nous détruisent.
Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière ?
Je te préviens, la cérémonie est très attendue. C'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on te dit.
Et te tueront, Sonaïra.
Ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps ?
Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul ?
Les Hirondelles de Kaboul sur les écrans depuis mercredi. Premier tour de table pour un condensé de la vie que vous développerez ensuite, Thierry Chaise.
Les liaisons parfois compliquées entre faire savoir et savoir-faire.
Corinne Rondeau.
Moche et poussif.
Julien Gester.
Je dirais que c'est assez joli, mais que ça ne fait pas forcément un joli film.
Point. D'accord. Non, j'attendais là, je ne sais pas, une suite. Je prends un temps. Dit de sociétaire. Thierry Chaise, alors.
Mais je suis d'accord avec Julien sur ce point-là. Alors moi, j'ai pas trouvé ça moche, en effet. C'est que je trouve que dans
j'ai pas encore vu le film, pardon. Hein, vu la bande-annonce, mais je trouvais que ça beau.
Voilà.
On va quand même en parler.
Oui.
Ah, mais bien sûr, je suis tout oui pour savoir si je dois ce week-end aller voir ce film. Je suis le premier auditeur.
Donc on est, comme vous l'avez dit, au cœur de l'été 98, donc Kaboul. On va suivre principalement deux couples, un couple plutôt jeune qui essaye de trouver la liberté dans un endroit où il n'y en a plus, et puis un gardien de prison, aussi un Mujahideen, et sa femme malade. Bon, on part donc d'un livre de Yasmina Kadra, qui pour moi ne m'avait pas non plus frappé, et voilà, c'est pas dans mon livre forcément de chevet.
Il y a moi non plus, il y a je peux vous le dire.
Il y a une volonté, quand d'un seul coup ce livre est adapté, de faire un travail pédagogique. Donc ce travail de faire savoir et de raconter. Un film d'animation l'avait fait l'année dernière, nommé aux Oscars, qui s'appelait Parvana, qui était l'histoire d'une petite fille de 11 ans dont le père, lecteur, écrivain public, avait été arrêté. Et du coup, la difficulté du quotidien quand on est une petite fille où on ne peut rien faire, rien du tout, y compris aller acheter de la nourriture. Et qui avait ce même souci de où, d'un seul coup, les fameux films à sujet, où donc le faire savoir est important. Moi, ce que je trouvais, donc, en dehors de ça, qui était déjà dans le livre Yasmina Khedra et qui est toujours là, le parti pris du travail sur l'animation, donc de Eléa Gobé-Mévélec, qui avait notamment travaillé sur Le Chat du Rabbin ou sur Anas et Célestine, d'apporter du contraste, d'apporter des tons pastels, des choses dessinées calmes, évite de faire une redite. Il y a au moins ça dans l'animation. C'est-à-dire que tout ce qui est très expliqué par les dialogues et par les situations est pour moi sauvé en grande partie par cette animation-là. Il n'empêche que le film boîte et que justement cette volonté à tout prix de faire comprendre une situation, de bien poser les choses, fait que l'artistique et la poésie ou autre chose a du mal à passer, parce que l'important c'est de raconter au-delà de cette histoire ce qui se passe, ce qui se passait, évidemment ce qui se passait hier se passe aujourd'hui, donc quelque chose de très scolaire qui empêche le film pour moi d'aller plus haut que ce récit-là.
C'est-à-dire que ce que vous et moi trouvons comme défaut au roman n'est pas sauvé
l'adaptation. C'est pas une trahison
cinématographique.
Voilà.
Hélas,
et là, voilà,
pas une trahison. Ça. Hélas. Corinne Rondeau sur les Hirondelles de Kaboul.
Moi, je n'ai malheureusement pas lu le roman, donc je ne peux pas faire de comparaison. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas du tout aimé l'aspect aquarellé. Je déteste ça, donc j'ai trouvé ça extrêmement laid. Parce que, alors, on peut ne pas lui faire le reproche non plus, dans la mesure où on voit des scènes, enfin, on choisit de rentrer quand même par une scène de lapidation. Donc, on se dit, bon, on prend les choses en main. On est au monde des talibans, donc forcément, les choses vont se passer mal. Mais en même temps, on est dans l'époque de MeToo, donc c'est une lapidation, c'est les femmes. Ça joue quelque chose d'une incise, je trouve, dans le film, parce que tout se joue autour de la question de l'amour, finalement. Et effectivement, cette dimension, vous dites pédagogique, mais c'est une manière un peu humanistico-humaniste, au secours, de dire, en fait, les gens qui s'aiment sont toujours là pour sauver la vie. Bon, bien sûr, bah alors, passez-les dans les collages, même si moi, je préfère de loin qu'on repasse chaque année Shoah, vous voyez. Il y a deux poids, deux mesures sur la question de l'histoire. Alors, bien sûr, on se dit, pourquoi c'est pas fait avec des acteurs, puisque le dessin reprend les traits stylisés des acteurs dont on entend les voix. Pascal Elbé, Michel Jonas.
Simon Abkarian, Zeta Enrode, Swan Arlo, Yamabas, voilà. Et quelques autres.
Donc, on se dit, bon, c'est pour la prod, il faut montrer ça, quoi. Il faut dire des choses autour de ça, sans la violence que l'image réaliste du cinéma peut apporter. Et en même temps, on se dit, mais oui, mais non, enfin, quelque chose ne rentre pas dans les cases. Donc je c'était une manière de dire, vous pouvez voir la violence à l'endroit où elle est aquarellée. Donc si vous voulez, ce monde-là, même si c'est la fin des années 90 et de tout ce qu'on a pu voir avec les exécutions dans les stades, parce que c'est aussi dans le film, je pense qu'il y a le réel ne passe pas non plus par une manière de le dénier dans sa totalité, dans un monde d'images dont on voit toutes les images. Et si c'est pour nous raconter de l'amour à travers de l'aquarelle, moi, franchement, je vous dis tout de suite, non.
Pas pour vous. Julien Gester.
Je pense que le problème du film, il dépasse cette question de l'aquarelle. Je trouve que le film est, pour le coup, plutôt, si on doit lui créditer une réussite, elle est graphique, elle est technique. À l'intérieur de son projet. Après, ce projet-là, moi, me pose relativement problème, ou en tout cas m'intéresse assez peu, cette manière d'habiller cette histoire qui n'est que didactique, qui n'est que démonstrative, pour raconter à quel point, évidemment, à la fois la guerre, le fondamentalisme religieux, le sexisme et tout ce qui enrobe tout cela, c'est moche, mais avec deux jolies images. Et un projet de joliesse qui dépasse ça. Enfin, il y a un enrobage un peu enjôleur du film qui passe évidemment par sa dimension plastique, graphique, etc., mais aussi par le choix d'un casting dans lequel il y a des comédiens, des bons comédiens, aimables, aimés, etc., qui vont permettre de rentrer. J'imagine que le fait de faire ressembler les figures à l'écran à ceux qui leur prêtent leur voix, et là aussi pour flécher un peu pour créer un petit peu de l'accroche, de la séduction à un endroit encore. Voilà. Mais je pense que tourner le même scénario avec ces acteurs ou d'autres en prise de vue réelle aurait posé les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Tout est tellement fléché, tout est tellement déterminé. Chaque situation est tellement si absolument téléphonée, y compris hein, une forme de ce qu'on pourrait appeler une forme de twist final, mais qu'une réplique va annoncer une demi-heure avant dans le film.
Demi-heure ou une heure?
Oui, enfin ça paraît long, c'est vrai. Mais qu'au final, aucune figure n'existe. On aurait pu mettre des comédiens de chair à la place. Ça paraît difficile d'imaginer que tout cela aurait pu s'incarner. D'autant plus que et tout cela, je pense que tout converge vers ça, y compris le choix de la période choisie, le fait de, aujourd'hui, les dernières actualités qui viennent d'Afghanistan disent que les velléités de retrait aussi des États-Unis disent que il n'est pas du tout improbable que les mêmes talibans reprennent le pays demain, après-demain, dans 6 mois. Ça paraît tout à fait imaginable. Il s'est passé 2-3 trucs entre les deux qui sont beaucoup plus troubles, peut-être beaucoup plus ambigus, beaucoup plus qui étaient peut-être plus intéressants aussi à investiguer, notamment l'invasion américaine, l'occupation ces 20 dernières années, la difficile retour à une forme de semi-souveraineté de ce pays-là. Et pour le coup, ce qui est raconté ici est tellement dénué d'ambiguïté. Dans le regard qui est posé dessus, le regard qu'il faut avoir en tant que spectateur et le jugement moral à poser sur chaque situation, sur chaque figure, qu'aucune de ces figures n'existe. Et j'ai pas le sentiment non plus qu'on apprenne grand chose. C'est-à-dire que faire du œuvre de didactisme, c'est sympathique. Mais j'ai le sentiment que le film ploie vraiment, pour le coup, sous ces épaisses intentions-là.
Alors, faut préciser les choses, c'est que ce livre de Yasmine Akhanra, que Serge Goudpeu, lui, est paru en 2002. Donc, il était à l'époque près de la situation qu'il décrivait.
Mais c'est le choix de l'adapter maintenant.
C'est bien.
En un sens,
c'est absolument pour abonder dans votre sens.
Une actualité nouvelle par le fait qu'aujourd'hui, les talibans sont dans l'actualité du pays, enfin du monde d'ailleurs, de la région. Mais
c'est bien parce que je suis d'accord avec vous que je soulignais ce point-là. C'est pas pour le coup la Yasmine Akhanra qu'on fera porter ce chapeau-là. C'est la question, c'est pourquoi adapter ce texte-là sur cette époque-là pour une sortie en 2019. Mais bon, j'ai pas vu le film. Encore une fois, je me suis contenté du livre. À moi encore, tu as les chaises.
Non, mais je comprends. Mais c'est dans la lignée du travail de Zabou Breitman, réalisatrice. Je ne parle pas de la metteuse en scène de théâtre, mais réalisatrice, avec Se souvenir des belles choses, avec Noé et moi. C'est des films qui finalement se ressemblent dans ce côté très didactique, alors qui parfois, comme Se souvenir des belles choses, ont accroché, et qui là, sur un sujet comme ça, est pour moi plus problématique.
Vous aviez très envie, Julien Lester, qu'il me reste 2 minutes de parler du film de Cédric Clapiche, qui est sorti cette semaine.
Non, c'est le film de Cédric Clapiche.
Cédric Kahn.
Mercredi prochain.
C'est ça?
Le film de Cédric Clapiche. Il y a un autre Cédric K, qui est, oui, non, Cédric Kahn, que j'ai vu ce matin, j'y tenais pas absolument, mais comme
En fait, vous pensiez que c'était au programme de l'émission.
Je l'ai vu, c'est vrai que...
Alors, c'est lequel des deux? Parce que j'ai confondu, pardon. Cédric Kahn, c'est quoi?
Non, Cédric Kahn, cette semaine, c'est donc un film qui s'appelle Fête de famille.
Ah oui, c'est ça, avec un programme. Il joue Catherine Deneuve.
Et alors, c'est impressionnant à quel point il n'y a dans le film que des gens qui se jouent eux-mêmes, qui jouent leur propre caricature. Et c'est un peu embarrassant pour eux aussi, à la fois qu'on souhaite leur proposer, qu'on n'ait que ça à leur proposer, et puis manifestement, il n'ait que ça à faire, du coup, ils saisissent l'occasion de jouer leur. Voilà. Mais c'est un film un peu impressionnant, je trouve, de caricature de cet art de vivre bourgeois à la française que le monde entier nous envie, qu'on ne souhaite plus du tout voir sur un écran, qui est un peu à l'intersection de. Peut-être d'un conte de Noël d'Arnaud Desplechin et puis de l'heure d'été d'Olivier Assayas. Je pense que ça dessine assez bien un spectre de réunion de famille, de chicane, d'histoire de succession compliquée. Et au milieu de tout ça, on peut croire au début que c'est une forme un peu méta de relecture de ce film parce qu'il a choisi à la fois de jouer dedans, donc on pourrait s'imaginer qu'il dirige le film de l'intérieur, et puis de s'entourer d'acteurs qui sont aussi eux-mêmes des cinéastes, Emmanuel Berco, Vincent Macaigne, et puis Catherine Deneuve qui, comme on le sait depuis un texte fameux d'Arnaud Desplechin, est une très grande cinéaste sans avoir elle-même réalisé de film.
Mais non. Il n'y a pas de projet méta.
Mais je pense que c'est, voilà, ça, c'est peut-être ce qui brillait dans le scénario et qui a pu le conduire à convaincre un certain nombre de guichets de financement qu'on avait encore envie de voir ce type de film complètement carbonisé du cinéma bourgeois contemplant la bourgeoisie française. Et en fait, non. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir tendu le micro pour rendre compte de cette vision ce matin.
Vous avez travaillé depuis ce matin pour cette émission,
beaucoup.
Donc je voulais que ces deux minutes
et du coup, je trouve,
soit pour
je
vous.
Je suis désolé qu'ils prennent une balle perdue, puisque
elle n'est pas perdue.
Pas au programme, mais.
Elle n'est pas perdue, comme ça, on se tient plus au courant encore de l'actualité des sorties.
Merci beaucoup. Hein,
merci à vous.
Merci beaucoup.
Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, David Alain nous a rejoint pour nous rappeler la question et donner la réponse du jeu d'hier soir, David.
Grâce auprès de quel musée a été possible l'exposition « Amazonie, le chaman et la pensée de la forêt » Et la réponse est au musée d'ethnographie de Genève.
Ce soir, des invitations pour une autre exposition. Elle s'appelle « Distance intime », chef-d'œuvre de la collection Ishikawa. C'est jusqu'au 29 septembre au MOCO, hôtel des collections, à Montpellier. Quelle est la question ?
Qui est la commissaire de l'exposition « Distance intime », chef-d'œuvre de la collection Ishikawa ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été présentée, ou préparée plus exactement, présentée a priori par moi, préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Gomeau, Boris Spino et David Danin, prise de son Clément Daté, réalisation Alexandre Fougeron. Lundi à 19h, une dispute théâtre, je serai avec Lili Blou, Marie-Josée Sirache et Philippe Chevillier. Nous parlerons du cours classique d'Yves Ravet, au Théâtre du Rond-Point, Les Beaux d'Éléonore Confino au Petit Saint-Martin, Le Gorille d'après Kafka au Lucernaire et un coup de cœur pour Les Naufragés, spectacle au Théâtre des Bouffes du Nord.